J'ai pas du tout commencé par des études de développeur. J'ai commencé par une licence pro en automatisme industriel. Donc ils m'ont contacté et comme ils ont vu que j'avais des notions en Flutter, bah, c'est comme ça un peu qu'ils sont venus m'aborder parce qu'ils voulaient en fait refondre toutes leurs apps pour les enlever du natif et faire du cross-platform. Pour une chose, alors c'est peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça un peu bête, c'était de me dire qu'avec des lignes de code, donc du texte, j'arrivais à faire sortir quelque chose à l'écran. Je suis pas un grand fan des startups et des levées de fonds. Je suis plus dans la mouvance qu'on pourrait appeler indie maker. En fait, je veux dire, en tant que personne solo, si on arrive à développer une application mobile, native ou cross-platform, ça dépend ce qu'on a besoin de faire. Arriver à produire un produit tout seul et concurrencer des grosses entreprises sans avoir besoin de monter toute une infrastructure et ainsi de suite.
Bienvenue sur le podcast Développeur Libre dans lequel j'accueille chaque semaine une personne inspirante qui est devenue libre grâce au code. Alors bien sûr, on a chacun notre propre définition de la liberté et c'est pour ça que dans ce podcast, je reçois aussi bien des entrepreneurs que des digital nomades qui parcourent le monde tout en travaillant ou des salariés qui se sont construits petit à petit une vie sur mesure pour profiter pleinement et accomplir leurs objectifs en tout genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime, un développeur mobile cross-platform et indie maker qui a appris à coder en grande partie de manière autodidacte et qui publie ses propres applications sur les stores en parallèle de son job de développeur. Donc dans cet épisode, on va parler du parcours de Maxime, bien sûr, pour comprendre comment il en est arrivé là, mais on parlera aussi de la question entre natif et cross-platform, qu'est-ce qui est le mieux et comment choisir entre les deux. On va parler aussi des challenges auxquels fait face Maxime par rapport aux applications qu'il publie, et on verra en quoi c'est possible de vivre de ses propres applications mobiles pour devenir libre. Donc si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous donner un avis sur la plateforme que vous utilisez et à partager cet épisode, et moi en attendant, je vous laisse apprécier mon échange avec Maxime. Salut Maxime, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que on rentre directement dans le vif du sujet et que tu commences par déjà te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et comment tu te définirais aujourd'hui.
D'accord, bah alors bonjour à tous, je m'appelle Maxime. Alors aujourd'hui, je vais commencer par ça, je me définis en tant que développeur d'applications mobiles. Et le reste de ta question, c'était juste comment j'en suis arrivé là et que je me présente, si je me souviens bien. Donc, en gros, j'ai pas du tout commencé par des études de développeur. J'ai commencé par une licence pro en automatisme industriel. Alors, l'automatisme industriel, pour résumer assez rapidement ce que c'est, si après il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci, c'est en gros les personnes qui programment les machines dans les usines. Par exemple, qui mettent de l'eau en bouteille ou qui mettent du liquide dans les cigarettes ou qui font les formeuses de pots de yaourt. Je prends ces exemples-là parce que c'est assez parlant pour les personnes. J'ai commencé là-dedans parce qu'en fait, j'aimais déjà pas mal la programmation quand j'étais plus jeune. J'en avais déjà fait un peu d'HTML, de CSS, et ainsi de suite. Mais dans la ville où j'habitais à l'époque, il n'y avait pas forcément de formation. J'avais pas forcément envie de bouger. Il n'y avait pas formation de développement. Pardon. Et donc, je suis parti dans ça. Il y avait aussi de la mécanique et de l'électricité à côté. Je suis pas très manuel, donc voilà. Donc en fait, je suis parti d'en faire des études. J'ai eu une licence pro en automatisme. J'ai été embauché dans une entreprise dans le sud de la France qui faisait des machines pour les cigarettes principalement. La boîte s'est diversifiée et a commencé à faire de la robotique. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'automatisme, t'as déjà pas mal de notions de programmation, les boucles, les if, les elf, les if else, for, boucles, quelques trucs comme ça, les variables, les notions de int, des bytes, des entiers, ainsi de suite, il y a déjà des notions. En fait, donc on part pas totalement de zéro. Et donc en fait, quand il y a eu la formation de la robotique, ça m'a permis de plus approfondir le code, parce que ça ressemble un peu à du C, on va dire, le langage du robot que j'ai fait. Donc en fait, ça a commencé à me former. Et de par moi-même, j'étais fasciné par le développement mobile. Ces dernières années, c'est vraiment le développement mobile qui m'a fasciné. Surtout Android. Pour le coup, je sais que ta chaîne parle beaucoup d'iOS. et donc en fait, j'ai commencé à regarder de ce côté-là, en voyant qu'avec ce que j'ai fait en entreprise, en apprenant à programmer ce robot, qui est la marque Universal Robot, pour ceux que ça intéresse. C'est des robots industriels, donc vous attendez pas à avoir une tête de personne et tout, c'est juste un bras robotisé. Je tiens à le préciser. En fait, j'ai commencé à regarder de ce côté-là, donc j'ai attaqué avec les cours sur Robot Classroom, je pense comme beaucoup de monde, pour faire un peu de la programmation Android, sauf que c'était en Java. Et c'était au moment, on va dire c'était en 2017-2018, quand au moment où les gens commençaient à parler de Kotlin. côté Android. Donc j'ai commencé par moi-même à essayer de m'entraîner là-dessus. Java, c'est pas le langage que je préfère, mais j'ai commencé à sortir des applications qui tenaient la route. Après, j'ai un peu plus peaufiné Kotlin, et c'est de là que j'ai commencé à entendre parler des langages cross-platform, spécialement Dart et Flutter. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, moi en tant que personne tout seul, si je veux pouvoir, parce que vraiment à ce moment-là, mon but c'était de développer une application pour moi, de vraiment réussir à moi me dire j'arrive à sortir une application. Pas forcément d'être embauché. J'ai quand même réussi à être embauché par la suite, mais au début c'était pas ça mon idée. Donc je suis vraiment parti sur ça, et en étant tout seul, j'ai commencé à regarder un peu la différence entre le natif et le cross-platform, et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai qu'en étant tout seul, je vais pas forcément avoir besoin. J'avais pas toute sa réflexion, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'avais pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités natives de l'OS. Donc, du cross-platform, ça m'a intéressé. Et à ce moment-là, il y avait Flutter qui commençait à en faire parler de lui, et de l'autre côté, il y avait React Native, des deux. J'ai un peu regardé de côté, sauf que venant plus de Java et de Kotlin, le Dart me parlait plus, en fait, que le JavaScript. Donc, en fait, je suis parti sur du Dart et Flutter. Donc, j'ai commencé à faire une petite application dans mon coin, que j'ai sorti. La première que j'ai sortie, c'était il y a maintenant 2 ans. Je crois que c'était en novembre d'il y a 2 ans. Qui était une application Pomodoro, un petit Pomodoro tout simplement, que j'ai sorti que sur Android. Et puis j'ai continué à me former. Là, c'est là que Flutter a commencé à sortir sa version web, pour ceux qui suivent un peu la technologie Flutter. Donc j'ai continué à faire des petits projets, j'ai commencé à remplir un peu mon GitHub de tests, je m'amusais, ainsi de suite. Et là, j'ai voulu pousser le truc un peu plus loin, en sortant une qui faisait Android et iOS. Donc me servait vraiment du cross-platform à 100%. Tout en continuant à développer des petites applications en Kotlin et tout dans mon coin, mais je me suis dit autant essayer tout seul de sortir sur les deux stores. Et au moment où j'étais en train de commencer à faire ça, une entreprise m'a contacté. Vraiment, ils m'ont trouvé grâce à mon GitHub, et ils m'ont contacté. Ils étaient en pleine refonte. C'est une entreprise d'une dizaine de salariés qui est basée sur Lyon. Je pense pas que j'ai le droit de dire non parce qu'on travaille un peu dans la cybersécurité. Dans la vidéoprotection, dans la sécurité avec la vidéoprotection. Donc je ne sais pas trop si j'ai le droit de le dire, j'avoue que ce n'est pas très clair encore, donc je préfère pas le dire. ils n'ont pas été très... Ils veulent pas trop des fois qu'on parle d'eux, donc je préfère pas trop dire leur nom.
Ouais.
Donc ils m'ont contacté parce qu'en fait, c'est une petite entreprise. Et ils ont 4 applications sur les stores. C'est surtout du B2B. Donc en tant que particulier, vous pouvez les voir passer. Elle ne t'intéresse pas. Si tu n'achètes pas les produits de l'entreprise dans laquelle je suis, elles ne sont pas intéressantes. Mais donc, ils se retrouvaient à avoir un petit souci, c'est que au début, ils étaient 4 développeurs. Là, ils se retrouvaient à 2 développeurs. Et avoir à maintenir une base de code et en Swift et en Java, et Java Kotlin pour Android, bien évidemment, c'était un peu lourd. Donc en fait, ils m'ont contacté parce qu'ils voyaient que j'avais des notions d'Android. Le développeur qui faisait Android, ce que je dis à ce moment-là, ils étaient 2, mais le développeur qui faisait Android était sur le point de partir, en fait. Donc ils m'ont contacté et comme ils ont vu que j'avais des notions en Flutter, ben c'est comme ça un peu qu'ils sont venus m'aborder parce qu'eux ils voulaient en fait refondre toutes leurs apps pour les enlever du natif et faire du cross-platform pour simplifier le fait d'avoir pas assez de développeurs pour tout faire. Et les applications qu'ils utilisent, clairement, il n'y a pas besoin de tout ce qui est. Il y a une application qui a besoin de la caméra, un peu du Bluetooth et de la connexion internet. Il n'y a pas besoin de plus que ça, donc des vraiment fonctionnalités natives des téléphones, genre l'accéléromètre, ou pour ce qui est d'iOS sur la dernière version d'iPhone, je veux dire sur la dernière version du LiDAR ou autre, dans l'entreprise où je suis, on n'en a pas besoin. Donc ils ont considéré que faire du cross-platform, c'était plus intéressant, et surtout en termes niveau financier, c'était plus facile à maintenir une base de code que plusieurs bases de code. Donc ils m'ont contacté, et maintenant ça fait 1 an et demi que je suis chez eux. Et on en est à avoir migré 3 apps sur les 4 en cross-platform, et on a encore une en natif.
Ok.
Voilà pour faire un résumé.
Ok, super. Super, non mais c'est pas mal, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Non, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce que... c'est vrai que c'est un parcours, en tout cas pour la boîte, là je parle pour cette migration entre le natif et le cross-platform, c'est pas commun.
En général,
c'est plutôt l'inverse. Voilà. On crée une version cross-platform parce que au début, start-up, business model encore un peu
C'est le temps de trouver le business market fit, donc on fait un truc assez rapide pour avoir un retour client. Quoi.
C'est ça. Mais on reviendra sur la boîte dans laquelle tu travailles. Mais ce qui est intéressant là, c'est déjà ta transition, on va dire, dans un monde qui n'est pas le monde du code. Bon, même si voilà, c'était quand même le monde de l'automatisme, je suppose que c'est quand même assez lié, tu nous l'as dit.
Cette transition, un petit peu, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, cette transition entre ce monde-là et le monde du code. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est vraiment, tu t'es dit, tiens, le monde de l'automatisme, ça ne me passionne pas plus que ça et je vais aller chercher quelque chose dans l'informatique? Et est-ce que, enfin, dans l'informatique et le développement, est-ce que vraiment c'était juste, entre guillemets, ta passion pour le mobile qui t'a drivé dans cet univers-là, ou est-ce que ça allait plus loin et tu t'es dit, je sais qu'il y a peut-être plus de taf, que je peux peut-être travailler en remote? Enfin voilà, quelle était ta réflexion à ce moment-là?
Alors, franchement, alors déjà, il y a eu la réflexion du remote, mais j'avais entendu parler du remote. On va parler de ce moment-là où j'étais en train de me dire l'automatisme, ça me plaît moins, et ainsi de suite. C'était aux alentours de 2016-2017.
Ouais.
Et je commençais déjà à avoir entendu parler du remote grâce à, pour ceux qui connaissent, des gens style Olivier Roland ou autre.
Ouais.
D'accord. Mais en fait, c'est qu'à ce moment-là, je voyais que l'automatisme, le côté purement programmation de l'automatisme m'intéressait. Mais un automaticien, t'es amené à faire aussi pas mal de choses, parce qu'on va dire qu'en gros, t'es la personne qui va mettre en route la machine sur site, chez le client. Donc, s'il y a un problème en ELEC, bon, encore les lecs, ça va. C'est pas la partie que j'aime le moins, mais ça passe. Et si t'es en partie, si c'est sur, pardon. Et s'il y a un problème mécanique, c'est à toi de tout faire. Donc, faut savoir meuler, poncer, limer, enfin, tous les trucs d'un vrai bricoleur, en fait. Et ça, ça me plaisait, mais pas du tout. Alors, je n'ignore pas les gens qui font ça. Moi, c'est pas du tout mon truc. Et après aussi, depuis tout petit, déjà quand j'étais ado, le programmation me fascinait. Pour une chose, alors c'est peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça un peu bête, c'était de me dire qu'avec des lignes de code, donc du texte, j'arrivais à faire sortir quelque chose à l'écran, de visuel. Ça m'a toujours fasciné, ça a commencé avec les jeux vidéo, quand j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo, et au fur et à mesure, quand j'ai rendu en tant qu'ado, plus sur la partie web. Pourquoi le mobile? C'est que, aux alentours de commencer, ça fait une dizaine d'années, que le mobile est vraiment en train de prendre le dessus sur les PC en tant que tel, et ainsi de suite. C'est pour ça que je suis plus parti sur mobile, en fait, et que je trouvais ça fascinant d'avoir une application dans les stores.
Ok.
Et alors, il y a eu le truc du remote qui, en tant que développeur, permet de plus facilement travailler en remote. Et pour info, la boîte où je suis en ce moment, je travaille en remote. Et aussi la partie de pouvoir, que c'est vraiment une passion. Comment dire, après le boulot, travailler et développer, ça ne me dérange pas. Je passe mes soirées à faire ça, je passe mes week-ends à faire ça. Enfin, je fais tout le temps ça, en fait. Vraiment. Ouais. Il y en a qui diraient que je le fais trop, mais je fais tout le temps ça parce que, je sais pas, pour moi, c'est même pas travailler, c'est vraiment une passion d'essayer de trouver un problème, regarder comment marche le langage, ainsi de suite. Puis je suis même passionné sur comment est l'univers entier du développement.
Ouais.
En tant que tel. C'est comment ça bouge, ça fourmille, tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut faire et tout ce que je vois qui est possible de faire et que des personnes qui sont moins intéressées par l'informatique ne se rendent pas compte de ce qu'on peut faire avec, en fait. Je vais prendre un exemple tout bête, mais il y a plein de personnes qui ont, c'est sans dénigrer pour l'âge, mais qui ont plus la cinquantaine, soixantaine, qui ont du mal à comprendre le gain de temps que leur ferait d'utiliser des outils de gestion, style Trello, Asana ou autre. Et en fait, ils font un blocage dessus parce que ça leur paraît pas logique, alors que ça leur fait gagner un temps fou. Et tout ça, c'est grâce à l'informatique. Et je passe des détails, mais on pourrait aller beaucoup plus loin avec des nouvelles technos qui sont en train de sortir et qui font les choses encore plus vite. Donc, je suis vraiment content aussi de travailler dans ce milieu-là parce que je trouve que c'est un milieu qui fourmille et qui vraiment fait évoluer le monde en ce moment, du moins.
Ouais, carrément. Ok. Et tu nous as dit un truc intéressant, donc tu nous as bien fait comprendre que ta passion c'était le mobile, et en fait je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu nous as dit je veux me former au développement mobile et surtout je veux sortir une application, voilà c'est mon objectif, je veux sortir une application sur les stores. Et tout de suite après tu nous as dit voilà je me suis pas tout de suite fait embaucher etc. et dans la manière dont tu l'as dit, et j'aimerais que qu'on rebondisse là-dessus, on a l'impression que cette application, elle avait pour objectif de te faire remarquer et voilà, de créer ton portfolio pour ensuite te faire embaucher. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'était vraiment l'objectif de rentrer dans une boîte? Ou est-ce qu'il y avait déjà en toi cet esprit un petit peu entrepreneurial qui te disait « Bon, je vois que les applications mobiles, ça commence à flamber un peu de partout. Ouais. Est-ce que je ne me ferai pas une petite place ?»
En fait, je pense que c'est un peu des deux au final. Parce que, comme j'ai dit, la première que j'ai faite, c'est un Pomodoro. Si Elle est encore publiée, donc je peux retrouver le lien et, et te le passer si tu veux le mettre en description ou autre, pour ceux que ça intéresse. C'est juste un pomodoro, c'est un truc tout simple, un petit pomodoro qui affiche des images avec le timer, et à la fin du timer, un petit son, et ainsi de suite. Mais par contre, je pense qu'il y a la partie entrepreneuriale, je l'avais un peu au fond de moi, mais aujourd'hui, je l'ai toujours un peu, de toute façon. C'est vraiment de voir qu'avec une application mobile, il est possible... alors, je suis pas un grand fan des startups et des levées de fonds. Ça, par mm-hmm. contre, je suis plus dans la mouvance qu'on pourrait appeler indie maker. Je trouve ça plus fascinant. Ouais. Donc, et je me rends compte qu'avec une application mobile, on peut, sans avoir besoin de trop de... En fait, je veux dire, en tant que personne solo, si on arrive à développer une application mobile, native ou cross-platform, ça dépend ce qu'on a besoin de faire, arriver à produire un produit tout seul et concurrencer des grosses entreprises sans avoir besoin de monter toute une infrastructure et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, je pense que je l'avais au fond de moi, mais je n'avais pas encore l'idée d'un produit. Mmh. Donc, je suis parti je vais faire une petite application déjà pour voir si j'arrive à le faire. Être content de me dire, j'ai publié quelque chose et il est sur le store. Ça je trouvais. Ça, pour le coup, aujourd'hui, maintenant que je l'ai fait, ça va. Mais pour le coup, j'étais vraiment fier de moi de voir mon application sur le store.
Carrément, ouais.
et voilà. Non, ouais, je pense qu'il y avait un peu d'entrepreneuriat, mais ce n'était pas vraiment l'idée de base. Après, c'est sûr que ça m'a aidé à gonfler mon portfolio.
D'accord.
Mais c'était pas vrai. Enfin, je pense que c'était un peu des deux, au final.
Ouais, non, mais voilà, c'est intéressant de comprendre hein, s'il y a vraiment une démarche derrière ou si c'est voilà, comme ça.
J'avais pas une démarche claire en me disant je sors cette app, je vais la monétiser et je vais vivre dessus. Ouais. À ce moment-là, non. Par contre, au fond de moi, j'avais toujours cette réflexion. Depuis là, personnellement, j'ai sorti d'autres applications. Comme j'ai dit, j'en ai sorti une qui est sur le Play Store et l'App Store, qui elle, par contre, est monétisée avec la publicité sur Android, et je suis en train d'essayer d'ajouter la partie payante sur iOS, qui elle, par contre, est plus dans l'idée de commencer à me faire un peu d'argent. Mm-hmm. Mais la première, c'était pas vraiment ça. Mais au bout d'un moment, force de voir que j'arrive à coder des trucs, je me dis, bon, il y a peut-être un moyen que je puisse me faire, dans un premier temps, un complément de revenu. Alors, je touche quelques petits trucs avec les applications, mais clairement, pour le moment, c'est pas grand-chose. Et dans un même temps, essayer d'en vivre. Comme j'ai dit, je suis plus dans la mouvance indie maker, donc arriver à se faire de quoi vivre soi-même et sa petite famille, pas forcément en France, voire même à l'étranger.
Mmh. Ok, d'accord. Tu m'as un petit peu coupé l'herbe sur pied, parce que c'est vrai que j'allais te demander quels sont les résultats que tu as générés avec donc, cette première application et aussi éventuellement d'autres que tu as publiées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces résultats, peut-être en termes de chiffres, alors surtout des statistiques peut-être de téléchargement, rétention et...
Ça, je peux, les chiffres, ça me dérange pas, je peux les dire. En gros, je pense que vu l'audience que tu as, tout le monde sait que c'est $25 pour se créer un compte Google et $99 par an pour se créer un compte Apple. Et en gros, l'application que j'ai faite, qui s'appelle Tengu Sensei pour ceux qui veulent la chercher, elle me génère, avec la publicité, l'équivalent de payer iOS.
Et d'accord. C'est
tout. Okay. Pour être clair. Et en termes d'utilisateurs, je suis à entre... Alors, j'ai regardé, il y a au début du mois 130 et 150 comptes créés et utilisateurs actifs assez réguliers. Je ne dis pas tous les jours, par contre, c'est une vingtaine. J'ai encore du mal à trouver l'effet wow qui fait que les utilisateurs peuvent revenir sur mon app. L'application, pour que je fasse un petit résumé de qu'est-ce qu'elle fait, aujourd'hui, l'application, elle est basée sur le Japon. Pour ceux qui Tengu Sensei, c'est Tengu pour le petit monstre avec le nez rouge, là. Japonais et Sensei pour professeur, parce que c'est une application qui essaie d'aider les Français à apprendre le japonais. Hiragana, katakana et kanji. Je suis en train d'essayer de la faire un peu plus grossir parce que je veux qu'elle touche un peu plus tout l'univers du Japon. Donc je pense avec les mangas ou autres pouvoir ramener un peu plus d'audience. Mais l'idée de base, c'est cette application-là. C'est en fait, okay. Je vais essayer de toucher la communauté qui est fan de Japon ou qu'on peut appeler otaku française avec cette application.
D'accord. Ok. Et du coup, donc cette application qui donc c'est bien elle hein, qui permet de couvrir les frais de store. Ça commence à générer de l'argent. Il y a du trafic. Enfin, moi je me rappelle les premiers euros que j'ai gagnés sur Internet, c'est en vendant mes formations sur Udemy. C'était le même ordre de grandeur. C'était quelques euros par mois et au final, tu arrives sur l'année à moins de 100 euros. Mais à ce moment-là, je me suis dit. Attends, c'est le commencement, c'est quelques euros, mais en fait, c'est quelques euros qui tombent sans rien faire, entre guillemets, de manière automatisée. Enfin, je veux dire, tu travailles une fois et après, tu gagnes. Et est-ce que là, il n'y a pas justement cette réflexion qui te, qui, qui te monte à la tête, entre guillemets, si. Où tu es en train de te dire, attends, est-ce que je peux pas justement démultiplier mes efforts ou alors essayer d'automatiser certaines choses pour multiplier mes sources de revenus et peut-être que bah, voilà, je vais gagner 100 euros par an ou par mois, mais fois 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc., tu vois.
Si, j'avoue que ça commence à tourner dans la tête. J'ai toujours eu cette envie d'avoir un... Ça m'a toujours, comme j'ai dit, j'ai entendu parler d'Olivier Roland en 2016-2017. Et donc, on va dire que c'est un peu... Lui, en France, il a un peu vendu l'idée de, des business qui peuvent tourner sur Internet et qui peuvent te ramener de l'argent, même forcément, même quand tu dors. C'est de l'argent, c'est du travail que tu fais en avant qui te font de l'argent après coup. J'avoue que ça me fait titiller, surtout que je commence maintenant à avoir quelques revenus qui rentrent. Alors, c'est pas mirobolant, mais bon, ça me couvre au moins les frais de store, c'est déjà pas mal. Après, oui, ça me titille. Le truc, comme je disais, c'est que... Alors, multiplier les on va dire... à un moment, je m'étais posé la question de créer d'autres applications en parallèle de l'application Tagmo Zenzé. J'ai réfléchi, mais c'était soit je continuais dans l'univers du Japon et je créais d'autres applications, soit je faisais... c'est ma conclusion là aujourd'hui, quand on enregistre l'épisode où j'en suis, et où soit en fait Tagmo Sensei, je mets tout dedans. C'est-à-dire au lieu de... Parce que là, je veux toucher les personnes qui souhaitent apprendre le japonais, mais il y a des gens qui sont fans de manga, d'anime ou autre du Japon en France, mais qui ne veulent pas forcément apprendre le japonais.
Ouais.
Je prends l'exemple, mon frère, il est comme ça. Et je me suis dit, bah, peut-être que ces personnes, en fait, je pourrais les toucher en ajoutant une partie dans la... En fait, en faisant passer la partie manga au-dessus de la partie apprendre le japonais dans l'application. C'est une réflexion que j'ai. Je suis en train d'avoir modifié un peu le code pour essayer de voir ce que ça va donner, pour essayer d'augmenter, de ramener du trafic et augmenter les revenus de cette application. Parce que je me suis dit que partir sur plusieurs apps, étant tout seul, enfin, je vais dire app parce que... Bon, je suis parti sur l'application mobile, donc je vais continuer dans l'application mobile. Il y aurait possibilité de faire un SaaS ou autre, mais le développement web, ce n'est pas encore trop mon truc, donc je ne sais pas, aujourd'hui. Donc en fait, j'étais parti sur ça, donc je me suis un peu perdu dans mon film, mais ce n'est pas grave. je me dis que je vais essayer de ramener plus de trafic sur Tengu Sensei en lui rajoutant plus de fonctionnalités. Donc dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je rajoute des fonctionnalités à cette application et j'essaye de créer un peu de contenu à côté, sur Twitter principalement. J'essaye ensuite, j'ai un petit blog que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps où j'essaye de poster quelques trucs pour essayer d'un peu de ramener de trafic sur Tengu Sensei, mais le blog je parle plus de développement en tant que tel, pas forcément l'application.
D'accord.
Que j'ai faite. Et je me tâte à essayer de lancer une chaîne YouTube pour pouvoir essayer de ramener un peu de trafic sur cette application, en fait, parce que la laisser vivre à droite à gauche, le trafic vient, mais si on le fait pas, si on le force pas à venir, en fait, c'est un peu compliqué de le faire venir de manière organique. Parce qu'on va dire que les stores, ils sont un peu à part du reste du trafic.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Okay. Donc, ouais, voilà.
Ok. Mais, et là, en fait, c'est hyper intéressant la réflexion que tu as parce que tu es en train de te demander, voilà, en gros, j'ai une idée de fonctionnalité, entre guillemets, qui pourrait être soit une fonctionnalité à part dans une application ou carrément une application à part entière. Et. Derrière, justement, tu as ce raisonnement de la communauté. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est déjà que tu as compris, en tout cas, la puissance de la communauté pour venir soutenir tes projets. Et du coup, ma question, c'est pourquoi, justement, ne pas créer cette communauté, donc essayer de créer cette communauté passionnée par un même univers, l'univers du Japon. Alors, je ne sais pas si... on peut vraiment appeler ça comme ça, parce que peut-être que l'univers du Japon, ça veut rien dire tellement c'est vague, mais voilà, qui est passionné par un univers, et tu peux te dire, je vais décliner comme ça plusieurs applications qui ne font pas la même chose, mais qui sont en même temps, la plupart du temps, intéressantes pour ma communauté, parce que justement, c'est une communauté qui est rassemblée par un seul et même domaine, on va dire.
Franchement, c'est une bonne remarque. Franchement, là, à ce moment, je suis en pleine réflexion. Mais vraiment, je suis vraiment en réflexion sur ça. C'est soit est-ce que je crée une communauté et je fais plusieurs applications pour répondre aux besoins de cette communauté. Comme, après, oui, ça, on va dire l'univers du Japon, c'est vague. Moi, je serais vraiment envie de me focus sur les mangas, les animés, parce que c'est ça qui m'a un peu moi attiré personnellement sur le Japon et qui m'a aussi donné envie d'apprendre la langue. Alors, je vois bien que la langue, c'est un peu plus sous. Une sous-niche de plusieurs niches, pas forcément des animés qui veulent apprendre le Japon, bref, pour passer à des détails. Sauf que oui, cette communauté d'animés, c'est ça. Après, le truc, c'est que créer une communauté autour de ça, pourquoi pas, mais en fait, le mec que j'ai aujourd'hui, c'est que je me sens pas, je pense que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur de me dire, j'ouvre un truc, j'ouvre par exemple une chaîne YouTube, un compte Instagram ou autre sur les animés, partant du principe sur l'anime ou les mangas, et puis je fais de la critique d'anime ou de manga, je m'en sens pas. Je sens que mon avis serait pas pertinent. Pourquoi je ne saurais pas le dire aujourd'hui, je ne saurais pas le dire, mais c'est vrai que ça serait une possibilité pour ramener du contenu, pour ramener du trafic sur, pour créer cette communauté, et cette communauté-là, après, de la faire vivre mes applications autour de cette communauté-là. Et comme tu disais avant, c'était faire plusieurs applications pour toucher tout ce truc. En fait, ma réflexion est, soit je fais une application qui fait tout, alors je sais qu'il y a le souci de se dire, si on fait tout, on ne fait rien de bien. Enfin, si on veut tout faire, on ne fait rien de bien. Mmh. J'ai aussi le truc à côté qui fait que je développe tout seul mon app. Et peut-être me retrouver avec plusieurs bases de code, ça va peut-être un peu me perdre. Je ne sais pas, en fait.
Je voulais rebondir effectivement sur... T'as dit à un moment, je peux pas parce que je suis tout seul. Mais voilà, c'est quoi à l'heure actuelle la charge de maintenance que tu dois effectuer sur la première application, enfin, c'est quoi ton temps que tu alloues à tes différentes applications qui sont publiées
aujourd'hui? Quoi que c'est vrai, niveau temps de maintenance, je pense que sur toutes mes apps publiées, je dois en être à... si je suis à 10 heures par mois,
d'accord.
c'est pas mal. Vraiment, je ne suis pas plus que ça. En parlant juste de maintenance du code de l'app, ou rajouter de nouvelles fonctionnalités. Après, comme je dis, j'essaye de faire un peu plus de contenu autour pour ramener du trafic dessus. Mais ce qui en tant que juste maintien du code de ces apps, ça doit être à 10 heures par mois. Donc j'avoue que dit comme ça, je pourrais peut-être faire plusieurs d'autres applications.
non, mais voilà, c'est juste effectivement, je voulais essayer de comprendre pourquoi. Et après, il y a peut-être d'autres raisons. Tu me dis effectivement le syndrome de l'imposteur.
Il y a le syndrome de l'imposteur, et il y a aussi le fait qu'à côté, comme je dis, je suis salarié pour une autre entreprise.
Ouais.
Et que je travaille à 35 heures pour cette boîte et que
bien sûr.
Et j'ai aussi des codes du code à développer pour cette des bases de code à maintenir pour cette entreprise là.
Ouais, tout à fait. Et puis comme tu disais, tout faire en même temps, c'est le meilleur moyen de ne rien faire bien.
Exactement.
En fait, là, tu nous disais ça dans le cadre d'une application qui regroupe plein de fonctionnalités et je suis quand même assez d'accord parce que ça a plusieurs inconvénients aussi. Par exemple celui l'inconvénient où quelqu'un qui va arriver sur ton application, ça va être difficile pour lui de comprendre exactement ce que fait l'application, et peut-être que si ton application elle fait à la fois elle lui permet à la fois d'apprendre une langue et d'autres fonctionnalités comme ça, il va peut-être se dire mais il y a déjà une application qui me permet d'apprendre la langue que je veux apprendre, elle le fait déjà très bien, et puis j'ai une autre application qui me permet de lire, je ne sais pas moi, des mangas ou peu importe. Et du coup, il va se dire, oula, attends, tout est rassemblé au même endroit, est-ce que ce n'est pas un peu une espèce de bouillon de plusieurs applications, tu vois?
Ah, mais je suis d'accord. Après, je suis tout à fait d'accord de dire qu'il faut vraiment essayer de toujours se nicher de plus en plus. Par exemple, on peut partir du principe des applications qui apprennent... Non, on va partir plutôt dans le manga, ça va être plus facile. Des applications qui permettent de lire des mangas. Ok, mais on peut dire par exemple des applications qui permettent de lire des mangas que de tel éditeur. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. On peut aller très loin. Je vais donner l'exemple d'une application en fait, qui, pour moi, je vais le dire avant, je ne suis pas utilisateur de cette app. J'utilise très très peu. C'est Instagram. Pour moi, Instagram, c'est l'inverse. C'est l'exemple contraire de ça. Je donne ma réflexion. Instagram, à la base, c'est juste des photos au format carré dans un fil d'actualité. Ils ont rajouté des IGTV, donc des petites vidéos un peu à la format YouTube, mais un peu différent. Ils ont rajouté les stories, qui sont encore un autre truc. Et ils ont rajouté, dans un état, un truc un peu concurrent de TikTok. Je dis pas que c'est eux qui ont raison, mais je trouve que c'est une app qui est le contre-exemple du fait de, si on fait tout, on fait mal. Après, je suis d'accord qu'Instagram, c'est je ne sais pas combien de développeurs qui bossent dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on commence à voir aujourd'hui, ou du moins, enfin, peut-être que je me trompe complètement sur Instagram, mais j'ai l'impression que c'est une application qui arrive à prouver qu'elle peut faire plusieurs choses. Et bon, je ne suis pas un très grand utilisateur, mais je pense qu'elle fait quand même toutes ces choses assez bien.
Non, mais non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et le dernier exemple, je pense que là, j'ai en tête, c'est l'adoption des stories. C'est pas Instagram qui a inventé les stories. Non. Ils l'ont implémenté. Et alors, je dis peut-être ça parce que je suis utilisateur quasiment uniquement d'Instagram et tous les autres réseaux sociaux. C'est vrai que j'y suis très, très peu, voire pas du tout. J'ai l'impression quand même que les stories sur Instagram ont presque détrôné les stories de ceux qui l'ont inventé, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, Snapchat. Donc, c'est vrai que c'est clairement le contre-exemple. Après, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais là où Instagram le fait bien, je pense, et c'est l'impression que j'en ai, c'est que, comme c'est un réseau social, leur objectif, en fait, c'est de faire en sorte que les utilisateurs passent le plus de temps sur leur application. Et là, du coup, effectivement, il faut qu'Instagram soit à la fois du partage de photos, de vidéos, mais également une messagerie et tout ce qui va avec. Donc, c'est vrai que ce raisonnement de faire des applications, ou en tout cas du contenu de plus en plus niché, c'est hyper intéressant, mais pas toujours vrai. Et en fait, je suis d'accord avec toi, parce que moi aussi, j'ai cette réflexion en ce moment, de créer une application qui surtout analyse tes habitudes et te permette en fait en gros d'avoir des statistiques sur toi, sur tes habitudes, ton comportement et plein de choses qui peuvent aller autour. Et en fait, là, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer un tracker d'habitude, un truc qui analyse tes repas et du coup un truc qui fasse tes courses comme ça. Enfin, tu vois, ça peut partir hyper loin parce que justement, là, l'intérêt, c'est de centraliser plein de données. Et forcément, plus il y a de données, bah, plus tes analyses et tes conclusions sont fiables. Donc, je pense qu'en fait, que le raisonnement de se nicher est bien parce que ça te permet effectivement de sortir ton application le plus rapidement possible. Et je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'il faut sortir une application le plus rapidement possible.
Ah oui.
Et je pense que c'est aussi pour ça que tu es parti sur du cross-platform. Parce que voilà, ça te permet de toucher un public le plus rapidement possible. Et du coup, d'avoir des avis utilisateurs et par conséquent, de venir ajouter ou non des fonctionnalités qui intéressent les utilisateurs déjà présents sur l'application. Quoi.
C'est ça. En fait, c'est l'avantage du cross-platform. Après, ça a d'autres inconvénients. Je vais donner un exemple. Après, pour ceux qui... Je vais juste rebondir sur ce point-là. Il y a ceux qui n'utilisent pas vraiment Flutter. Parce que moi, j'utilise Flutter en tant que langage cross-platform.
Mm-hmm.
Et Flutter a la particularité de réécrire entièrement ce qu'il y a à l'écran. Donc,
ouais.
On n'utilise pas les composants natifs que ce soit Android ou iOS. Et j'ai eu des réflexions de personnes venant d'Android qui me disaient que ça leur paraissait bizarre, en fait, parce que les interactions faisaient que, en fait, en gros, j'ai un peu mixé des composants, parce qu'en fait, on peut appeler des composants qui ressemblent aux composants natifs d'Android et iOS, mais par contre, ils sont mm-hmm. réécrits par Flutter. Donc, on peut
D'accord.
les custom vraiment à l'infini. Et en fait, je les ai un peu appelés à ma sauce. Et donc, au final, j'ai eu des retours de personnes sur Android, pas sur iOS, qui me disaient que ça leur faisait bizarre. Ils n'avaient pas l'habitude, en fait, d'avoir ça. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Je ne sais pas. Je sais que, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Reflectly. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui crée une espèce d'assistant pour téléphone. C'est une petite tête ronde et on lui écrit un peu nos pensées tous les jours.
Okay.
Ils ont codé leur application entièrement en Flutter. À la base, elle est en React Native. Et en fait, ils ont montré un exemple qu'ils préféraient Flutter React Native par rapport à cette technologie-là, parce qu'en fait, React Native, en fait, ce qu'il fait, React Native, il fait un espèce de pont entre les composants natifs, soit d'iOS, soit d'Android. C'est-à-dire, on fait une base de code en JavaScript qui pour le React Native, et on a un retour quand on a l'application sur Android et sur iOS, elles sont différentes. Elles reprennent les composants natifs d'Android et d'iOS. Et ils avaient un souci sur un de leurs composants qui rendait bien sur iOS. Et avec le composant natif d'Android, ça ne rendait pas bien. Donc, pour
D'accord.
eux, Flutter, que ça réécrit entièrement, c'était pratique. Je vais dire l'exemple de ce cross-platform, c'est que moi, j'ai eu ce petit souci-là. Après, j'ai eu qu'un ou deux retours, donc bon, j'ai un peu laissé couler. Surtout que je me dis, je ne vais pas me taper à réécrire la. Parce que maintenant que je suis parti là-dedans, je ne dis pas si ça ne grossit pas vraiment, que je ne vais pas les réécrire en Kotlin et en Swift. Mais aujourd'hui, comment elles sont avec le trafic qu'elles ont et tout, je vais continuer à laisser en cross-platform parce que ça me permet d'avoir juste une base de code et de pouvoir push en même temps sur les deux stores sans vraiment trop me prendre la tête. Il y a quelques petits ajustements à faire pour l'un et l'autre des stores, ça je dis pas le contraire, mais je trouve que c'est pratique quand on est tout seul, ça maintient qu'une base de code.
Ouais, tout
mais
à
c'est
fait.
Sûr que si je veux aller plus loin, il va falloir que je les réécris. Si je commence à avoir du trafic ou de la volumétrie qui commence à arriver, si c'est pas natif, je vais avoir des soucis, j'en suis conscient.
Ouais, mais c'est marrant que tu aies eu un retour de la part d'un utilisateur Android. Parce que, bon, moi je suis utilisateur iOS et je sais en tout cas que le design, comment sont placés les éléments, tout ça c'est quelque chose qui est hyper important. Et un utilisateur iOS, dès que c'est pas comme d'habitude, il va être perdu et frustré. Et c'est marrant que ce retour vienne d'un utilisateur Android, ouais, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus flexible dans ce monde-là que chez iOS.
Android laisse faire beaucoup plus de choses, même si on va dire que depuis maintenant un an ou deux, avec l'arrivée des librairies Jetpack, c'est tout un package de librairies qu'a fait Google pour aider. Et par exemple, ils ont créé ce qui s'appelle Jetpack Compose, qui est le pendant de SwiftUI.
Ok.
Et là, ils commencent vraiment à standardiser les choses. C'est-à-dire, on commence vraiment à avoir des trucs qui commencent à être plus standards, toutes les applications commencent à se ressembler et tout. Mais c'est vrai qu'ils sont assez flexibles là-dessus. Android, en tant qu'utilisateur, on peut se retrouver avec une application avec le bouton validé en bas, l'autre en haut, et ainsi de suite.
Ouais.
Franchement, moi qui utilise tout le temps Android, je m'y suis fait. Mais c'est vrai que ça peut être embêtant. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre aussi que la personne venant d'Android me fasse ce retour-là. Je pensais vraiment que ça serait iOS qui me ferait ça. Je m'en doutais que j'allais avoir un truc comme ça. Et non. Après, je pense que j'ai quand même plus d'utilisateurs sur Android que sur iOS avec mon application.
Ouais.
Parce que je vois les stats que j'ai. Par contre, j'ai pas encore assez mis. Alors, c'est peut-être une erreur que j'ai fait, que je sais pas. J'ai pas assez mis peut-être assez de trackers dans mon application.
D'accord.
Ça fait maintenant 6 mois qu'elle est publiée. Et je trouve que c'est peut-être un. Par exemple, la dernière mise à jour, je mettais en place Crashlytics, pour ceux qui connaissent, c'est le truc de Firebase qui me remonte bien les crashs. Et bien, en fait, c'est que je me disais, enfin, comment dire, une fois que l'application est dans la nature, on ne sait pas exactement comment les utilisateurs interagissent avec notre app. Si on ne met pas en place dès le début les bons tracking, même si je sais que tracking en ce moment, il ne faut pas trop en parler, c'est pas trop à la mode. Disons qu'en tant que développeur, tu aimes bien savoir ce que fait ton utilisateur de ton application pour savoir s'il a fait comme tu penses qu'il utilise ou pas. Et pour savoir si ça crache à tel endroit et que si lui ça le fait chier, ou toi si tu penses que c'est normal, et ainsi de suite. Et par exemple, c'est la dernière mise à jour que j'ai faite, où j'ai commencé à ajouter du tracking parce que je me suis fait une remarque en me disant ouais, mais en fait, je sais pas comment il utilise exactement. J'avais des retours, mais c'est parce que j'allais les demander, et ainsi de suite.
D'accord. Et justement, ces retours-là, donc tu les as mis en place parce que tu en avais besoin ou parce que juste tu te posais la question, enfin, pourquoi vraiment tu les as mis en place? Est-ce que tu t'es dit, là je vois qu'il y a un truc qui marche pas, j'arrive pas à convertir, ou alors je sens que j'ai pas assez d'utilisation sur cette fonctionnalité-là? D'où c'était venu cette envie et ce besoin de traquer?
Ce besoin, en fait, c'était vraiment de. Mon besoin de traquer, c'était de savoir s'il y avait un endroit dans l'application qui rebutait l'utilisateur.
D'accord.
Parce que, alors. Je l'ai pensé comme ça. Il faut se connecter. On peut pas commencer à tester l'application sans se connecter. Je trouve que ça devient de plus en plus dans la mode où on puisse commencer à essayer une application et puis dès qu'on a testé quelques fonctionnalités, quand on va aller plus loin, paf, il nous demande de se connecter à ce moment-là. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. Je l'ai fait obligé à se connecter et ensuite on peut commencer à interagir avec l'app. Alors, sur le coup, ça m'arrangeait parce que ça me permettait de voir, en fait, quand je vois des nouveaux utilisateurs arriver sur mon channel Firebase, je suis en Firebase en back-end, pour ceux qui se posent la question, je vois tout de suite quand j'ai de nouveaux utilisateurs. C'est assez facile. De notre côté, derrière, je vois qu'en fait, je voyais bien qu'ils n'allaient pas aussi loin sur les révisions, les leçons, ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me dire, est-ce qu'il y a un endroit dans l'application, est-ce qu'il ne clique pas au bon endroit, est-ce que machin, qui fait que ça bloque. Est-ce que, par exemple, le design qui, moi, je me paraît logique, me leur paraît pas logique du tout. C'est pour ça que j'ai voulu commencer à mettre du tracking. C'était vraiment pas sur la conversion, c'est plutôt sur savoir à quel endroit de l'application j'ai plus de personnes qui s'arrêtent en fait de l'utiliser.
Ouais.
C'était pas. Okay. Ça n'a pas forcément été de me dire trouver un moyen de ramener plus de trafic. C'est vraiment le trafic qui arrive à revenir, que j'arrive déjà à ramener, savoir comment faire pour que lui reste.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai voulu mettre en place. Commencer à mettre en place du tracking. Alors, je n'ai pas tout mis, mais je veux commencer à mettre en place beaucoup plus de tracking. Voilà, du moins, quelques petites interactions pour moi, savoir ce qui se passe dans l'application.
Ouais, carrément. Ok. Et c'est hyper intéressant tout ça parce que là, en fait, si on refait un peu ton chemin dans les grandes lignes, tu as appris plus ou moins en autodidacte à développer des applications et a priori aussi, tu as appris en autodidacte à intégrer tout ce qui est tracking parce que tu as conscience de l'importance des avis utilisateurs, de comment ils utilisent ton application et surtout d'avoir un retour là-dessus, etc., etc. Et en fait, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu te formes là-dessus. Alors, je sais que c'est une question assez complexe.
C'est assez complexe.
Voilà, il y a la technique. Apprendre Flutter, ok, c'est bien. Tu peux très bien suivre un tuto. Et puis après, bon, bah, ok, tu peux réussir comme ça à devenir bon en Flutter ou dans n'importe quelle autre technologie. Mais après, justement, il y a toute cette réflexion de comment designer une application, comment créer une expérience utilisateur agréable, comment avoir conscience de l'importance des retours utilisateurs, du tracking, etc. etc. C'est quoi, est-ce que tu as un process là-dessus ou ça s'est fait naturellement?
Franchement, ça s'est fait naturellement. Après, il y a quand même un truc que bon, je pense qu'en fait, dans le parcours, on le voit, j'adore apprendre. Je me suis enchaîné sur plein de trucs et je passe mon temps vraiment à chercher plein d'informations. Après, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait vraiment. Je suis arrivé à un. Alors, je dis pas qu'avoir un tuto à un instant T ou une formation à un instant T, j'en ai suivi sur Udemy, j'en ai acheté à plusieurs personnes et ainsi de suite. Pour vraiment. Je vais parler vraiment en termes de développement pur. Si je veux apprendre à développer pure une navigation propre en MVP, MVC, MVVM ou ainsi de suite, des tutos sur Internet, sur YouTube ou des articles, Medium, ainsi de suite, on aura les bases, mais on n'ira pas assez loin. Je trouve que pour ça, une formation, c'est plus carré. Je parle sur cette partie qui est, bon, on va dire que développer l'architecture de son truc, c'est vraiment quelque chose de plus théorique. Toutes les autres parties d'application, qui est par exemple commencer à développer une application, le design, l'UX, l'UI, mettre en place les tracking, apprendre à utiliser Firebase, intégrer le SDK et ainsi de suite. Mais franchement, c'est au fur et à mesure. J'avançais dans l'application, je voulais faire ça, je commence à faire des recherches. Je me disais, par exemple, la première fois que je me suis dit, comment je fais pour avoir un semblant de back-end sur mon application? J'ai commencé à chercher, j'ai découvert Airtable, j'ai découvert Firebase, puis au fur et à mesure, j'ai commencé à les intégrer dans mes apps et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment en pratiquant et en ayant un projet que j'ai appris au fur et à mesure. Et en voulant faire
conscient mon projet. Ouais, parce que justement, voilà, en voulant
j'avais le blocage
faire conscient ton projet. Ouais, c'est voilà, t'as des questions qui se posent et du coup, tu vas chercher la réponse.
C'est ça, j'ai vraiment fait comme ça. Alors après, c'est sûr que si quelqu'un a fait des études dans l'UX, lui, je pense qu'il me ferait des réflexions, mais j'ai un peu appris sur le tas comme ça, on va dire.
Ouais, carrément. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que, bon, même si actuellement, tu ne vis pas encore à 100% de tes applications, mais il y a déjà des étincelles, on va dire, qui montrent que c'est possible. Et du coup, s'il y a ces petits... revenus qui sont générés de manière plus ou moins automatique, même si c'est des poussières pour l'instant, ça prouve que c'est possible, et surtout c'est possible en apprenant en autodidacte.
Ah oui, tout à fait, ouais. C'est vraiment possible. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Quand je dis s'en donner les moyens, c'est pas forcément financier. C'est vraiment se dire il faut chercher. Et je vais pas mentir, moi j'ai passé sur mes applications des nuits et des nuits à pas comprendre pourquoi ça marchait pas. Vraiment. Ouais. À me dire, mais pourquoi là ça marche pas, ainsi de suite, à essayer de comprendre chaque fonction des listes, des arrays, des ainsi de suite, aller récupérer des calls API, ainsi de suite. Une fois que tu sais le faire, je parle en tant que dev, vraiment, ça paraît super simple. Sauf qu'au tout début, la première fois qu'on arrive là-dedans, c'est du chinois, il y a plein de jargon, il y a plein de trucs, et tu passes des heures et des heures à pas comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il faut pas se démotiver, j'avoue que c'est compliqué, mais c'est là qu'il faut pas se démotiver et qu'il faut vraiment commencer à continuer à chercher. Si on voit que ça marche pas, on refait des recherches sur Internet et on recommence. C'est con à dire, mais avec Internet, le savoir, il est accessible. Faut juste prendre le temps de le chercher et appliquer à son projet concret. Il y a vraiment, je trouve vraiment, c'est quand j'ai commencé à avoir ce projet concret-là que j'ai commencé vraiment à progresser sur plein de choses. Après, il faut se donner le temps et y aller, quoi.
Ok, super. Je pense que ça fait une très très bonne conclusion pour ce podcast. C'était hyper intéressant. On aurait pu encore en discuter pendant très longtemps. Et pourquoi pas, hein, d'ici quelques mois ou quelques années, faire un deuxième épisode pour voir un peu comment ont évolué le Maxime et puis les différentes applications qui vont avec. Mais non, c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'aimerais te poser deux petites dernières questions avant de se dire au revoir. La première, c'est est-ce que tu aurais une ressource, alors une ou plusieurs, si t'en as plusieurs, fais-toi plaisir, mais voilà, une ou plusieurs ressources que t'aimerais partager aux auditeurs, que ce soit un livre, un site web, une série, un podcast, une appli, bref, peu importe, ça peut être ce que tu veux, mais que t'aimerais partager avec ceux qui t'écoutent.
Il y a un livre que j'avais lu il y a quelques années, j'ai relu il y a pas longtemps, que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est 100 € pour lancer son business.
Ok.
C'est un petit livre qui est sorti à peu près au même temps que La Semaine de 4 heures, mais un peu moins que La Semaine de 4 heures. C'est une personne qui prend des exemples et qui montre business physique ou pas physique. Comment des gens ont réussi avec. Le titre c'est 100 €, mais ça va de 0 à 1 000 € en gros. Et il prend l'exemple en montrant des personnes comment ils ont réussi à lancer des business avec très peu d'argent et très peu de moyens sur une idée un peu folle, ils se sont lancés là-dedans. Ça c'est un livre que je trouve. C'est super rapide à lire et je trouve vraiment pratique. Il donne des idées de. Il montre qu'en fait, avec rien, on peut faire quelque chose. Juste en se donnant un peu les moyens. Et après, il y a un podcast que j'aime beaucoup. C'est le podcast. Juste, j'ai perdu le titre. Message à caractère informatique.
Ok.
C'est un podcast créé par des gens de l'entreprise Oh, je sais, bien évidemment, j'ai perdu l'entreprise. Clever Cloud, qui est une entreprise en fait qui est un cloud provider, un peu comme Amazon. Je pense que s'ils m'entendent, ils vont dire on fait pas vraiment ça, mais voilà. ils font un peu comme du Azure, AWS, ainsi de suite. Mais d'accord, c'est une entreprise française. Et ils ont un podcast qui parle que de tech pure. C'est, ils font les news sur les nouveautés du kernel Linux, Rust, et ainsi de suite. Par contre, je trouve ça super intéressant. Ils sortent un épisode toutes les deux semaines. J'adore ce podcast. Donc voilà les deux ressources.
Ok, super. Bah, je mettrai les liens à la fois du bouquin et du podcast dans les notes de l'épisode. Dernière petite question, est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais inviter sur cet sur ce podcast et que tu aimerais entendre sur le même genre de discussion qu'on a eu?
Bah, moi, il y a une personne que j'aimerais vraiment entendre sur ce genre de discussion-là, c'est Mike Coder, celui de sa chaîne YouTube. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
Ouais, je vois très bien.
Et j'aimerais vraiment qu'il se fasse interviewer sur un sujet comme ça, pour voir son parcours entièrement.
Ok, bah carrément, non, mais c'est vrai que Mike, bah, je sais pas exactement depuis combien de temps je le suis. Bon, après, je le suis pas de manière très assidue, j'avoue, mais ouais, ça fait longtemps que je l'ai vu arriver.
Il a l'air d'avoir un parcours assez intéressant, je trouve.
Bah ouais, non, mais c'est sûr, et je crois d'ailleurs qu'il est déjà dans la liste des prochains prospects. Super. Bah écoute, Maxime, merci beaucoup à toi, merci pour ton échange hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu veux partager peut-être un de tes réseaux sociaux ou un moyen de te contacter?
Bon, franchement, mon Twitter, je suis tout le temps sur Twitter pour le coup. Donc, okay. Je te le passerai si tu veux, je t'enverrai mon pseudo Twitter. Et sinon, d'accord, après, y a mon site, mais après, j'attaque juste à le publier, mon blog, c'est maxvir.xyz.
Voilà. Ok, super, bah je mettrai encore une fois toutes ces informations dans les notes de l'épisode. Merci encore une fois à toi Maxime, et puis peut-être à bientôt pour un deuxième épisode.
Merci. Ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que la discussion vous aura plu, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage et sur vos réseaux sociaux, ça nous aide à faire connaître le podcast et à inviter encore plus de profils inspirants. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, ou si vous-même vous êtes intéressé pour venir parler de votre expérience de développeur libre sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter à contact@developpeurlibre.com. En tout cas, merci encore, et moi je vous dis à la semaine prochaine.